Alors, ce matin, je voulais vous partager le fruit de ma méditation. Et en commençant par un verset biblique qui m'a servi de marque-page pendant quelques mois, et que j'ai plus ou moins médité en dilettante, en ouvrant et en refermant ma lecture du soir, parce que je l'avais chaque fois, il marquait les pages de mon livre. Et ce verset se trouve dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 14. « Au jour du bonheur, jouis du bonheur. » Et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un comme l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver. Alors ce conseil est donné par celui qui est décrit, selon les versions, les traductions que vous avez, comme un maître, un sage, un prédicateur. On l'appelle l'Ecclésiaste aussi, d'où le nom du livre d'où est tirée cette sentence, et qui fait partie des livres de sagesse. Et donc c'est un conseil de sagesse. Et ce maître, c'est comme cela que l'on va l'appeler ce matin, réfléchit au problème du bonheur dans notre condition actuelle. C'est le thème du livre de l'Ecclésiaste. Alors je dis actuel, même si ce livre biblique a plus de 2000 ans, parce que fondamentalement, les questions que se posait ce maître sur la condition humaine, les observations de la réalité qu'il a faite, sont toujours pertinentes à notre époque. On va le découvrir par la suite. Revenons à notre verset de départ. « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un comme l'autre, si bien que l'homme ne peut rien découvrir de ce qui va lui arriver. » Il semblerait, à la lecture de ce verset, que l'existence ne soit pas dans un bloc que du bonheur, ça c'est souvent dans les slogans des jeux télévisés, c'est que du bonheur, ou que des malheurs, mais que les deux peuvent se succéder dans une vie, et que nous n'en sommes pas maîtres, qu'on n'a pas de prise sur les événements. Les jours et les moments de bonheur nous sont donnés par Dieu, et le maître nous encourage à en jouir, à en profiter pleinement, à ne pas les gâcher. Mais Dieu, alors je sais que cela peut choquer certains, et ce n'est pas mon but, mais Dieu, excusez-moi, s'il est le souverain sur sa création, est aussi derrière le jour du malheur. Il n'arrive pas sans sa permission. Et l'attitude préconisée par le maître, ce n'est pas la fuite, mais une invitation à réfléchir au sens de la vie sur cette terre lorsque le jour du malheur survient. Dans un autre style, C.S. Lewis a écrit « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance, son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » Le sens de la vie, la condition humaine, selon l'Ecclésiaste, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il en dit? Alors, lisons les deux premiers versets de ce livre, de ce recueil de sagesse. Voici ce que dit le maître, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit le maître. Oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. Puis il poursuit. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ça, c'est le thème de départ. Et le maître souligne par là il souligne le côté dérisoire de la vie au vu de la peine que l'on se donne, ça c'est dans les deux premiers versets, et de son côté éphémère, c'est-à-dire de la mort qui va venir un jour ou l'autre. Alors, cela nous renvoie au tout début de l'histoire de la Bible, au début de la Genèse. On va lire quelques versets de ce qui s'est passé. Juste après la création. Après qu'Adam et Ève aient eu mangé de l'arbre du fruit du bien et du mal, et désobéi et se retrouvent devant Dieu. Le thème de la peine que l'on se donne et de la mort se retrouve dans la sanction que Dieu va prononcer suite à cette désobéissance. C'est Genèse 3, verset 17. Il dit à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Donc on voit que ce n'est pas le travail qui a été maudit, le travail est toujours possible. La terre fournit de la nourriture, mais les conditions de vie de l'homme se sont rendues plus difficiles. C'est au prix de beaucoup d'efforts qu'il en récoltera des fruits. Et au verset 19, tu retourneras à la poussière, car c'est de la poussière que tu as été tiré. Le thème de la mort est de suite annoncé. On va quand même lire les deux autres versets. L'homme nomma sa qui suivent, l'homme nomma sa femme Ève, vie, parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. Et l'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller, pour montrer que Dieu, même au sein de son jugement, prend soin de l'homme et de la femme qu'il a créé, et cela dès le commencement. Revenons au maître, c'est un croyant, et c'est dans le contexte de ce monde déchu, qui n'est pas comme ça aurait dû être. Le monde actuel peut avoir un côté frustrant. Il arrive que beaucoup d'efforts donnent peu de fruits, ou soient balayés par des mauvaises circonstances. Et puis à la fin, la mort va mettre un terme à notre vie. Pour ce qui est des mauvaises circonstances, c'est très d'actualité. Si on regarde rien que dans nos pays, il y a peut-être des jeunes qui ont commencé des études, le Covid est arrivé, ça a été compliqué. Des gens qui avaient des entreprises, des artistes qui avaient des projets. Enfin, tout a été bouleversé avec ce Covid. Est-ce qu'on en a été maître? Même notre grande technologie, même si nous sommes dans des pays avancés, eh bien, nous avons souffert de cela et nous n'en étions absolument pas maîtres. Ça a bouleversé beaucoup de vies. C'est dans ce contexte que le maître juge que la vie peut avoir un côté décevant. Il va décrire les différentes tentations que l'on peut employer pour échapper à cette condition décevante de la vie humaine sous le soleil. C'est comme ça qu'il la nomme. Il va décrire diverses expériences. Alors, il va expérimenter la recherche de la sagesse, de la folie, même s'il va l'expérimenter en gardant une certaine sagesse pour juger qu'est-ce que donne cette folie, des plaisirs, des activités de toutes sortes, pour se rendre compte que tout cela, même s'il reconnaît par exemple que la sagesse est préférable à la folie, que tout cela ne peut pas lui faire échapper à sa condition mortelle, qui vit dans un monde qui a quand même un côté frustrant, décevant, qui a des injustices qui gâchent tout, qu'aucune relation humaine n'est parfaite, que je suis loin d'être parfait moi-même, et comme le dit la Bible, Dieu a créé l'homme droit, mais il a pris bien des détours. Et que même notre piété ne va pas nous faire échapper à cette condition humaine. Le maître de l'Ecclésiaste a finalement un côté très décapant. Il veut nous enlever toute illusion quant à la possibilité de fuir par un quelconque moyen la condition humaine, ses difficultés et sa fin à laquelle nul ne peut échapper. Mais ce n'est pas un pessimiste, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ni un optimiste, ça se voit tout de suite, mais un réaliste. Et une fois son constat dressé, on ne peut pas échapper à la condition humaine, il va donner des conseils pour vivre dans cette réalité, ou pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est, ça c'est le titre d'un livre qui commente l'Ecclésiaste. Et parmi ces conseils de sagesse, il y en a deux que j'ai relevés parce qu'il me semblait ressortir, il y a deux grands mais, M-A-I-S, qui ressortent chez le maître. Le premier mais, c'est que dans les multiples occupations des hommes, même si elles sont marquées par le côté dérisoire de cette vie, faire et défaire, c'est toujours travailler, comme dit le proverbe connu, Dieu accorde la joie. Au jour du bonheur, réjouis-toi. C'était notre verset d'accroche, en début de prédication. Et cette joie accordée par Dieu est soulignée à de multiples reprises dans l'Ecclésiaste, au moins 6 fois. On ne va pas lire les 6 passages, mais on va en lire 2, au moins. Par exemple, en Ecclésiaste 2, versets 24 à 26. Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur, mais j'ai constaté que cela aussi dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie, sinon celui qui le reçoit de lui? Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui lui est agréable. Donc, le maître vit dans un monde créé par Dieu et il sait que tout dépend de lui, même la joie. On a vu qu'elle est don du Créateur, afin que l'homme ait une part de bonheur. Et le maître souligne aussi que l'homme qui est agréable à Dieu en a une part plus grande, comme on vient de le lire. Un autre passage qui souligne cette joie, qui invite vraiment à la joie, c'est qui est comme une invitation à jouir du bonheur qui est lancée par le maître, c'est Ecclésiaste 9, versets 7 à 10. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires. Car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Au verset 7, on voit « Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. » Que Dieu pose un regard favorable sur la personne qui se confie en lui. Au verset 8, il est question de joie. Et au verset 9, la joie est vue comme un don de Dieu au milieu de cette vie vaine. Alors ces moments-là ne transforment pas la condition humaine, mais ils sont des dons de Dieu et comme tels peuvent être accueillis avec joie et reconnaissance. Ils soulignent aussi la générosité du donateur, du Seigneur de la vie. Cette notion comme quoi toute joie vient de Dieu est même utilisée dans l'apôtre Paul, par l'apôtre Paul au chapitre 14 des Actes, au verset 15, lorsqu'il commence à présenter l'évangile aux habitants de l'Istre, ce sont des habitants de l'intérieur de la Turquie actuelle, qui n'ont pas entendu parler d'un seul Dieu créateur qui adore de multiples dieux. Ce sont des polythéistes, des païens de l'époque. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Suite à une guérison miraculeuse, Paul et Barnabas, ils sont en train de parler de l'évangile, et puis ils voient un homme qui est intéressé, qui est boiteux, qui ne marche pas. Et puis il le regarde, et puis il lance une parole de guérison, cet homme-là se relève, et puis les gens de l'Istre, ils voient ça, ils sont persuadés que Zeus et Hermès se sont incarnés dans des hommes, et ils s'apprêtent, ils vont chercher des bovidés, et ils s'apprêtent à les égorger pour un sacrifice, en pensant que Paul et Barnabas sont des dieux. Paul et Barnabas, en prenant cela, sont désolés, et puis ils en profitent pour annoncer le vrai évangile. Et on va lire ces quelques versets. C'est en acte 14. Versets 15 à 17. Donc c'est Paul qui interpelle les gens, la foule qui arrive pour sacrifier. Et puis il leur dit « Amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi, semblables à vous. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu qui vous appelle à abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les siècles passés, ce Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. » Pourtant, il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. C'est incroyable, hein ? La pluie, les récoltes, la nourriture, la joie témoignent de la bonté de Dieu qui n'a jamais abandonné sa création et pourvoit, même dans ce monde déchu, même pour les gens qui n'en sont pas conscients. Dieu fait pleuvoir, il donne son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et la joie est là, est comme une fenêtre venant du ciel et pointant vers celui qui la donne. Un autre grand mais dans notre condition humaine, le deuxième, c'est celui d'une espérance qui laisse entrevoir que tout ne s'arrête pas à cette vie sous le soleil, qu'il y a un autre horizon. Le maître sait que même s'il ne sert à rien de vouloir fuir la réalité présente, de ne pas en tenir compte, il y a des échos d'une espérance et il va le souligner plusieurs fois. Par exemple, en Ecclésiaste 3.11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc même si on ne voit pas tout agir dans le temps présent, Dieu fait toutes choses belles en son temps et ça va jusque dans l'éternité même. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et quelques versets plus loin, en Ecclésiaste 3, versets 16-17, on va le lire. C'est par rapport aux injustices. Ecclésiaste 3:16-17. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a de la méchanceté, et à la place de la justice, il y a de la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Le maître laisse entendre là que s'il n'y a pas de justice parfaite ici-bas, il y aura un temps où Dieu jugera toutes choses, un jour des grandes réparations. Intuitivement, l'homme a soif de justice. Et Jésus dira « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice quand ils seront rassasiés ». Mais l'Ecclésiaste sait qu'il y a un temps où la justice sera rendue parfaite. Donc ça pointe vers un autre temps que le nôtre. Et quelques versets plus loin, au verset 21, « Qui peut dire ce qu'est l'esprit de l'homme qui se dirige vers le haut et ce qu'est le souffle de la bête, celui qui descend en dessous de la terre ?» On voit que là aussi, l'esprit, la différence entre l'homme et la bête, hein, je ne sais pas si vous voyez, à la fin, l'esprit de l'homme va remonter vers Dieu. Il sous-entend que la mort physique, la condition physique actuelle n'est pas tout. Et écoutez la conclusion de l'Ecclésiaste, du Maître, les deux derniers versets de son livre, au chapitre 12, versets 13 et 14. Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. « Sois rempli de respect pour Dieu et oublie ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. En effet, Dieu jugera toute œuvre, même si celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. » Les bonnes et les mauvaises, excusez-moi. Le Maître sait que tout ne se résume pas à la condition présente, à la condition actuelle, qu'il y aura un après à notre vie présente et que l'être humain va rencontrer son Créateur un jour. Déjà, l'espérance est pointée. Et la crainte de Dieu qui va avec pour rencontrer Dieu, évidemment. Alors, est-ce que les écrits qui suivent la venue de Jésus-Christ, les écrits du Nouveau Testament, soulignent aussi ce que dit le Maître de l'Ecclésiaste ? Est-ce que la venue de Jésus a changé nos conditions de vie, notre espérance ? Les thèmes abordés dans l'Ecclésiaste sont confirmés et éclairés par la venue de Jésus. Déjà, le Nouveau Testament ne nie pas que les conditions de vie actuelles, même pour les croyants, sont devenues idéales. Elles sont toujours réelles, avec des joies et des difficultés. Vous savez, l'idéal, c'est le contraire du réel. Et des fois, en voulant viser l'idéal, on rate le réel. On va viser un perfectionnisme qui n'est pas de ce monde actuel. Jacques 5, verset 13 nous dit « L'un de vous passe-t-il par la souffrance ?» La souffrance est toujours présente pour les chrétiens à qui Jacques écrit. « Qu'il prie, un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Cela nous rappelle le verset de départ, hein, « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, au jour du malheur, réfléchis. » Le croyant vit dans les mêmes conditions que toute l'humanité, dans le même monde déchu, mais par contre, il sait vers qui se tourner dans la souffrance. Il a quelqu'un à qui prier. Il y a un Dieu personnel. Et il sait qui remercier dans la joie, pour qui chanter des cantiques. Et le chapitre 8 de Romains, dans sa deuxième partie, fait écho au verdict de l'Ecclésiaste sur ce monde déchu, tout en ouvrant en grand la porte que ce dernier avait entrouverte sur l'espérance. Donc on va lire Romains 8, versets 20 à 30. Je vais commencer au verset 18. Je ne sais pas si j'ai dit 18 ou... Ah, 18, mais c'est bon. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler à nous. Donc c'est Paul qui parle. Pour Paul, la vie présente est caractérisée par les souffrances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie, hein, mais il compare la vie présente, souffrance, la vie future pour le croyant, la gloire. Donc il fait vraiment une différence. On n'a pas tout notre héritage maintenant, loin de là. Puis il continue, verset 19. « C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. » On est dans un temps d'attente. « Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il a toutefois donné une espérance. » C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Vous voyez le terme là, soumise au pouvoir de la fragilité, eh bien, c'est la même expression en grec utilisée pour traduire vanité, des vanités ou ce qui est dérisoire. Quand les savants juifs ont traduit la Bible en grec pour les gens qui vivaient dans le monde grec, quand ils ont traduit l'Ecclésiaste, vanité des vanités ou dérisoire, ils l'ont traduit avec le même mot que Paul emploie à dessein, là, c'est volontaire, que la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Et nous sommes toujours, que je sache, dans cette création. Jésus n'est pas encore revenu. On n'est pas encore dans la nouvelle terre. Nous sommes toujours dans des conditions où nous sommes soumis au pouvoir de la fragilité. Et il est dit, juste après, voilà. Et donc, même si la création a une espérance, parce qu'elle lui est donnée, Sa délivrance sera future lorsque nous serons délivrés, nous aussi, dans la gloire. C'est ce que disait le verset. Et le verset 22 nous dit, « Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création toute entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. » La création gémit, c'est un gémissement profond, le vocabulaire est fort. Et au verset 23, « Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. » Nous aussi, nous gémissons du fond du cœur. Paul gémit, il s'associe, c'est nous. Donc Paul, Loïc le disait la semaine dernière aussi, souvent c'est, on imagine c'est le croyant, et c'est pas on imagine. Quand on lit sa vie, c'est un croyant consacré qui marche avec Dieu de tout son cœur, qui a accompli de grandes choses pour le Seigneur, qui avait une intimité profonde avec Dieu. Ben Paul gémit. Il souffre lui aussi des conditions de la vie actuelle. Et lui aussi, il aspire à plus. Il aspire en plus, pourquoi ? Parce qu'en plus, donc, il n'échappe pas à notre condition, mais il a une espérance incroyable que nous aussi, nous avons, comme lui. Il a déjà commencé à goûter cette gloire du ciel par l'Esprit en lui, cette présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il en veut plus que dans sa condition suivante, présente, excusez-moi, le fait souffrir parce qu'il a goûté la gloire du ciel et il sait que ça va être beaucoup mieux plus tard. Mais en même temps, il a l'espérance dans le temps présent. Et c'est à cela que nous sommes invités, à regarder vers le ciel. Et vous savez, C.S. Lewis, je ne sais pas sa citation de tête, mais je le sais, je me rappelle l'avoir lu, et il disait que souvent, c'est les gens qui avaient la plus grande espérance dans le ciel qui avaient fait les plus grandes choses sur cette terre. Ça ne les a pas fait fuir de cette terre. Au contraire, ça leur a donné de la joie, de la force, de l'espérance. Et notre condition dernière, alors on continue, excusez-moi. En attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu, car notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Donc, sur sa condition dernière, pleinement établi comme fils de Dieu, viendra quand ? Pour Paul et pour nous. Dans l'âge présent, non, car notre corps sera délivré. Le salut chrétien, c'est un salut complet. Il englobe tout l'être humain, toute la création. Ce n'est pas que le salut des âmes. Des fois, on entendait le salut des âmes, mais non. C'est le salut de notre être au complet. Notre corps va être ressuscité. Et quand nous serons ressuscités, quand nous entrerons dans la gloire, la création rentrera dans la gloire avec nous et sera renouvelée aussi. Et si on continue dans le passage au verset 26, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Ben, l'Esprit aussi gémit. Il s'agit du gémissement, après le gémissement de la création et après le nôtre, l'Esprit gémit avec nous pour intercéder en faveur du but de Dieu, c'est-à-dire cet état de gloire. Et c'est dans notre faiblesse, comme dit Paul, dans notre faiblesse, il s'associe à ça. Paul se considère comme quelqu'un de faible, qui a besoin de la prière du Seigneur, qui a besoin de sa grâce, qui a besoin de l'espérance. C'est dans notre faiblesse qu'il vient nous aider et que nous bénéficions de l'aide de l'Esprit. Et dans quel but tout cela ? Pour faire concourir toutes choses à notre bien. L'Esprit intercède pour faire concourir toutes choses à notre bien. On le lit au verset 28, juste après. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Toutes choses, ça veut dire celles qui vont nous faire prier, c'est-à-dire souffrir, et celles qui vont nous faire chanter des cantiques. Dieu utilise toutes choses pour notre bien, celles que nous jugeons bonnes comme celles que nous jugeons mauvaises. Mais Dieu, lui, utilise toutes, juge qu'elles sont utilisables toutes pour notre bien. Et quel est ce bien ? Le verset 29 va nous éclairer sur ce bien que Dieu vise pour nous. Alors, je suis désolé pour certains, peut-être, mais ce n'est pas une grosse maison, ce n'est pas un compte en banque plein, ce n'est pas une vie sans soucis, ce n'est pas des relations toujours parfaites, mais c'est nous transformer à l'image de son Fils. On va le lire au verset 29. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et pour cela, Il commence son œuvre en utilisant toutes choses, sachant que ce qu'il a commencé, il va le mener jusqu'au bout. Et c'est ce que nous dit le verset suivant, le verset 30. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. De l'élection à la gloire, Dieu travaille en nous pour nous transformer à l'image de son Fils. Et quand nous serons à l'état de gloire, Jean nous dit que quand il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Mais déjà, c'est dans le temps présent que cela commence. Et c'est dans les temps présents que Dieu utilise toutes choses pour nous transformer à l'image de son Fils avant la transformation finale. Et cette espérance incroyable éclaire notre présent. Mais du coup, ne gâchons pas nos difficultés ou nos épreuves présentes en voulant à tout prix les fuir. On peut fuir dans la bouderie, on peut fuir dans toutes sortes d'activités, des choses bonnes comme des choses mauvaises. Mais le Nouveau Testament, Paul nous invite à ne pas fuir tout cela, mais à réaliser en fait que l'Esprit est en train de travailler dans nos vies pour nous transformer à son image. Pour nous rapprocher de Jésus. Voilà, c'est ce qui est dit en gros, quoi. Et si on continue à la suite de Romains 8, verset 30, j'ai pas fait afficher les autres, mais parce que je vais en lire peu. Donc, je vais relire le verset 30. Hein. Ceux qu'il a ainsi destinés, les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. La suite, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Au vu de ce qui a été dit avant, que Dieu va nous conduire à la gloire, Paul en déduit que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, si le Créateur est pour nous, qui se lèvera contre nous? Qu'est-ce qu'il y aura comme obstacle dans nos vies contre nous pour nous séparer de lui, hein? Et un peu plus loin, au verset 35 qui continue, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Certaines versions, qu'est-ce qui pourra nous séparer? La version sommaire, qu'est-ce qui pourra nous arracher? Et je trouve que ce terme est assez juste dans la suite, parce que ce qui est décrit par la suite, ce sont des choses violentes, mais qui ne pourront pas nous arracher à l'amour de Christ. Regardez la suite, la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère ou l'épée, rien de tout cela ne pourra nous arracher à l'amour de Jésus-Christ. Alors, Paul liste toute une série de difficultés que lui avait vécues. Peut-être que nous ne les retrouvons pas complètement à notre époque et dans notre société, mais on peut les remplacer par toutes celles que nous vivons, la maladie, une séparation, une période de chômage qu'on subit, des difficultés financières, de l'angoisse. Vous pouvez prier ce verset en mettant vos soucis à vous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? Rien, rien de tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne les traverse pas, mais ça veut dire qu'on a quelque chose d'inébranlable qui ne nous sera jamais enlevé. Et au verset 37, on continue quelques versets après. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolu. Donc dans tout cela, c'est-à-dire tout ce qu'il vient de lister, c'est pas quand la vie est sans nuages, avec un soleil qui brille, que nous sommes plus que vainqueurs. C'est dans tout le reste. Quand le reste arrive, on le prend aussi. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais le fait qu'il y ait des soucis, le fait qu'il y ait des nuages, ne veut pas dire que le Seigneur nous a abandonnés, ne veut pas dire que le Seigneur ne nous aime pas. Hein ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comment, ou plutôt où Dieu a manifesté de manière suprême, où il a témoigné d'une manière suprême son amour à Jésus-Christ, mais c'est à la croix. Ni la vie, ni la mort ne peuvent nous arracher à son amour. L'espérance est possible parce que Jésus-Christ a pris sur lui la malédiction. La malédiction qui pesait sur nous depuis la chute, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, a été prise par Jésus à la croix. Dans l'Ancien Testament, il dit que quiconque est pendu à un bois est maudit. Et la croix, c'est quoi? C'est un bois. Jésus a été pendu, il a vécu, a été crucifié sur le bois, il a vécu la malédiction à notre place. Il a pris la malédiction, Galates nous dit qu'il a été fait malédiction pour nous, sur lui, et il nous a donné la bénédiction, sa faveur, pour nous. C'est l'échange joyeux de l'évangile. Et c'est pour cela que nous pouvons gémir avec espérance, car la malédiction a été ôtée par Jésus-Christ, et que la création qui avait été entraînée dans notre malédiction, qui était soumise au pouvoir de la vanité, peut aussi gémir avec espérance. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour cette vie présente et celle à venir bénéficient de sa bénédiction. On vit toujours dans le monde actuel, mais on a une espérance qui change toute notre perspective. Et on peut bénéficier dès ici-bas de la joie du Saint-Esprit, parce que nous avons accès à Dieu, la malédiction a été enlevée. Tout le Nouveau Testament dit cela. Je vais vous lire un dernier passage, c'est l'apôtre Pierre, qui lui aussi dit la même chose, avec des mots différents dans sa première épître. Il écrit aux Romains, aux chrétiens de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie actuelle. Et regardez ce qu'il dit dans le premier chapitre du verset 3 à 6. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Au verset 4, on a un héritage incorruptible, tout le contraire de la vanité sous le soleil, tout le contraire de ce monde, quelque chose qui ne peut pas être dérisoire, qui ne peut pas être bougé, un héritage incorruptible que rien ne pourra nous arracher. Et au verset 6, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, dans ce monde soumis à la fragilité, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et on voit que ces épreuves sont vues non pas comme une fatalité, mais comme une nécessité que Dieu utilise pour nous transformer. Si on lit les versets d'après, ce serait pour épurer notre foi. Et on revient au verset de Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Joie dans l'épreuve et joie et tristesse qui cohabitent en attendant le jour où Dieu séchera toutes larmes de nos yeux, où la mort et la souffrance seront disparues et où la présence du Seigneur, que nous avons de manière partielle en avant-goût par son esprit, sera pleine et parfaite. Voilà l'espérance de l'Évangile. Voilà la réponse de Dieu à la fragilité de notre condition humaine. Pour finir, je vais vous inviter, vous pouvez soit fermer les yeux tranquillement dans votre cœur, je vais vous inviter à un petit moment de recueillement. Et si quelqu'un, alors que vous veniez ici depuis longtemps ou pas, désire connaître Jésus, ce sauveur qui nous délivre de la vanité de ce monde pour nous offrir une espérance éternelle, une vie que rien ne pourra endommager, je l'invite, Jésus l'invite à venir à lui confier sa vie. Et il a promis d'accueillir tous ceux qui viennent à lui et qui se confient en lui. Voilà, vous pouvez dans votre cœur donner votre vie au Seigneur si vous le désirez. Et ça en vaut le coup.